assis à côté de toutes. Je vois qu'on est quand même un peu dans la salle, donc c'est chouette. Et ben on peut commencer directement. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Quelqu'un qui veut se lancer, commencer?
Buenas noches, primero que nada, felicitaciones, Nico. Muchas gracias por compartir esta película con nosotros. Mi pregunta directamente era por... Hay un mensaje al final y quería saber un poco el estado actual de cómo sigue la Comunidad de Chiapas y cómo reaccionaron ellos, si has podido compartir el documental con ellos. No sé si lo pudiste mostrar por ahí. Y gracias de nuevo por la película.
Muchas gracias. Me demande par rapport au message qui est à la fin du film, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la situation, est-ce que j'ai pu montrer le film et avoir des réactions. Donc, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai voulu terminer le film là-dessus parce qu'en fait, on sent dans tout le film, il y a quand même une tension, c'est un endroit où on en parle au moment du film, c'est une région où il y a eu, et il y a toujours le phénomène paramilitaire qui est très présent. Et donc, le film est construit parfois un peu comme une fiction, mais c'est important de rappeler que c'est une situation réelle. Il y a cette situation qui est très dure, quoi, avec des morts, des assassinats. Et à la fin, il se trouve en plus que ces deux compañeros qui nous ont accompagnés pendant tout le processus du film, on a partagé des moments importants avec eux, pas seulement quand on filmait, sinon à d'autres moments aussi. C'était des personnes très respectées dans la communauté, qui étaient des sortes de leaders moraux, en fait. Et donc le fait qu'ils soient assassinés, nous on avait déjà terminé le tournage, on a tourné entre 2017 et 2021. Les assassinats ont lieu en 2024, on était en train de terminer le montage. Mais je trouvais ça important déjà de leur rendre hommage, parce que voilà. Et aussi de montrer, de faire passer ce message, que c'est une réalité, c'est dur, quoi. Il y a des personnes qui sont contre, opposées à ce genre de processus. Entonces, tal vez para dibujar muy rápido o entendiste más o menos, es como para dar el mensaje que es algo real, digo, porque la película es un documental, pero está construida a veces como una ficción, un poco, no hay entrevista, no hay voz en off, bueno, vemos situaciones, pero no olvidar que es algo real y que suceden cosas así, y el fenómeno paramilitar pues es muy fuerte en esta región, y desde el zapatismo hubo movimientos anti-zapatistas tratando de contrarrestar pues el movimiento zapatista y que paramilitar, porque esta vinculación de autoridades locales, caciques y el ejército mexicano, que tuvo un papel también en algún momento, y grupos paramilitares armados, ¿no? Y sigue ahí, pues. Entonces, y además son personas muy respetadas en la comunidad, que nosotros convivimos mucho con ellos. No aparecen tanto en la película porque la película es más coral, ¿no? Hay más. Pero, o sea, pasamos momentos muy importantes, nos ayudaron a entender mejor también lo que sucedía en la comunidad. Son líderes morales de la comunidad. Y le dolió mucho a la gente que los mataran, pues. Entonces, esto... Y la película la grabamos de 2017 a 2021, sobre todo. Bueno, yo empecé en 2016, pero estábamos terminando la edición en 2024 cuando los asesinaron, ¿no? Entonces me parecía natural de dar un homenaje al final y dedicarles la película también. Et donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et l'autre, par rapport au fait de montrer le film, justement, suite à cette situation qui a évolué depuis qu'on a terminé le film, nous, on a été, donc pendant 5 ans, on a tourné, et en fait, on avait à cette époque-là, effectivement, les personnes qu'on voit dans le film nous protégeaient aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions quand même qui étaient de sécurité, il y avait des mesures à prendre, on devait prévenir avant d'arriver, ils venaient nous chercher une heure avant d'arriver à Tila, au village, et après qu'on partait, on restait 15 jours souvent avec l'équipe, qui était moi, qui faisait la réalisation-production, Shun, qui est originaire du Chiapas, le photographe, caméraman, et Martin de Torcy, qui est un preneur de son français, mais qui vit au Mexique depuis un moment. Et quand on partait, donc on devait aussi faire attention. Voilà, il y avait des mesures de sécurité à prendre constamment. Et eux, ils avaient toujours cette préoccupation de ne pas tomber dans la provocation. C'est-à-dire qu'on voit ça au début du film, dans cette assemblée, où justement, il y a un compagnero qui dit... voilà, ne tombons pas dans le piège, ces personnes, on n'a pas à se venger, parce que sinon ça va en plus déchaîner la répression de l'État. Donc ils étaient très attentifs toujours à ça, à éviter ça. Et c'est aussi pour ça que le film se termine avec ce message de hay que ir con calma, compañeros, enfin de faire attention, quoi, parce que c'est pas n'importe quoi de perdre des compañeros, des camarades, comme il dit. Mais suite à ces deux assassinats, entre autres, et beaucoup d'autres facteurs, je vous invite à voir le site internet du film, unlugarmasgrande.com, où là on détaille en fait un peu le contexte historique depuis la révolution mexicaine, la lutte de les rideaux, enfin il y a pas mal de jalons historiques qui sont donnés. Mais en fait, bref, il y a beaucoup de facteurs. Il y a les autorités de l'État qui ont toujours été très répressives par rapport à ce genre de mouvement, les caciques locaux qui ne pensent qu'une chose, revenir avec les partis politiques. Et donc, il y a les paramilitaires, en plus, il y a le narco dans les dernières. Donc, il y a eu des assassinats. Et à un moment, il y a une partie, pas tous, mais une partie des ejidatarios, des compañeros, qui, même si l'idée c'était de ne pas tomber dans la provocation, bah, ont voulu répondre. Et à partir du moment où on se venge, ben forcément, ça donne une légitimité, entre guillemets, à l'État pour revenir avec son appareil passif et reprendre le contrôle, etc. Donc c'est ce qui s'est passé. Et en fait, depuis 2 ans, on est dans une autre séquence. Ce sera un autre film. Ça ne veut pas dire que le mouvement a disparu. Enfin, la lutte pour la terre et le territoire, comme dit, ça, c'est quelque chose de constant depuis la Révolution. Donc ça, c'est... Après, le processus d'autonomie dans lequel ils étaient engagés, d'autogestion, d'autogouvernement, d'autogouvernance... C'est vrai que là, ça c'est depuis 2 ans, ça s'est un peu cassé. Et donc, ils sont dans plutôt une situation de devoir aguantar, de résister, quoi, parce qu'ils ont vraiment face à eux l'État du Chiapas, pas fédéral, plus du Chiapas, qui leur a émis des mandats d'arrêt, enfin, qu'ils ont toujours activé, réactivé. Ça fait partie des personnes qui analysent la criminalisation des mouvements sociaux connaissent bien ça. C'est une stratégie de l'État, en fait, pour faire peur, en fait, aux personnes qui s'impliquent dans ce genre de mouvement. Pour envoyer le message, ne recommencez pas, quoi, pour pas que vous ayez l'idée de recommencer ce genre de choses, quoi. Et par ailleurs, bon, il y a eu un phénomène narco qui aussi a pris de l'ampleur dans cette région. Et il y a les paramilitaires qui sont toujours là, en connexion avec des caciques locaux, etc. Donc là, ils sont dans un mouvement, mais c'est la même chose pour les apatistes. Il y a des moments où ils sortent, il y a d'autres où on se replie, on résiste. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire. C'est juste une autre séquence qui s'est ouverte depuis 2 ans. Et donc, les conséquences, concrètement, c'est qu'on n'a pas pu faire une présentation globale, collective, dans les rideaux, dans le village, parce qu'on n'a plus les conditions de sécurité, tout simplement. C'est-à-dire que les compagnons m'ont dit « c'est pas une bonne idée, quoi, de venir faire la projection maintenant ». Donc, il y en a certaines qui l'ont vu. Il y a une projection à San Cristobal, au Chiapas, mais bon, là, il faut préciser que c'est le Chiapas, mais on est à 5 heures de Tila, hein, c'est voilà, 5 heures de route. Il y a eu certaines personnes qui l'ont vu là, il y en a d'autres qui l'ont vu pas dans une projection publique, mais on n'a pas fait ce moment collectif, voilà, parce qu'il n'y a pas les conditions, tout simplement. Donc on espère à un moment le faire. En même temps, eux, comment dire, avant ce film-là, j'ai fait un autre film avec eux, où là, on avait beaucoup accompagné, qui était plus didactique, qui était par rapport au contexte de leur lutte pour défendre leurs 130 hectares que l'État du Chiapas leur a volé, leur a spolié depuis des décennies. Ils ont mené des procès, ils ont une bataille juridique très très impressionnante, mais malgré les victoires, notamment à la Suprême Cour de justice de l'État, de la nation, l'État du Chiapas n'a pas pris les mesures pour vraiment faire respecter cette décision. Donc du coup, il y a toujours ce conflit qui aussi envenime les choses, qui fait l'État du Chiapas et de toute façon... très répressif avec cette communauté. Et par ailleurs, bon, il y a toutes les alliances avec des phénomènes de caciques, de gens qui sont habitués à avoir le pouvoir en fait, depuis des générations. Donc il y a tout ce phénomène-là. Donc du coup, c'est vrai qu'autant eux, voilà, on dit... Ben, voilà, par contre, ils valorisent beaucoup. Donc l'autre film, bon, je l'avais présenté avec eux à Mexico, à San Cristobal. Mais c'était un petit film moins ambitieux. C'était plus pour expliquer leur cas. D'ailleurs, il est disponible sur Internet. On l'avait fait en 2013, 2014, 2015, qui s'appelle « Juntos defendemos nuestra madre tierra ». Et donc ça, c'est visible, c'est sur YouTube, par exemple, sur le canal de Terra Nostra Films. Et après aussi, pendant le processus de faire ce film, on a fait beaucoup de petits reportages solidaires, en fait, avec leur lutte, quand ils se mobilisaient. Par exemple, à la fin du film, on voit, ils ont ce portrait de Zapata. C'était l'anniversaire de la mort, les 100 ans de l'anniversaire de la mort de Zapata, en fait. Et ça, c'est parfois, il y avait des tournages qui étaient un peu improvisés, c'est-à-dire que nous, comme avec Chun, Martin, il est plus loin, il était plus vers Mexico, mais nous, avec Chun, on vit au Chiapas. Et parfois, il nous prévenait quelques jours avant, il va y avoir telle marche, venez. Et donc, après, on filmait, on faisait des reportages qui aussi contribuaient à diffuser leurs revendications. Mais il se trouve qu'après, il y a des choses qui ont servi aussi pour ce film, mais Mais on va dire qu'on a eu aussi cette préoccupation assez constante d'accompagner voilà, de façon plus alors comme média libre, solidaire, etc. Et donc, il y a aussi des personnes avec qui on a filmé, on a fait des extraits de ce qu'on avait filmé, une famille par exemple, on leur a donné un DVD, enfin bref, il y a eu des retours. Mais le film en lui-même, effectivement, on n'a pas, parce que tout le monde, effectivement, dont on a tous envie d'avoir un grand moment de partage, comme les compañeros ont si bien fait là au Pérou là, avec leur film. C'est vrai que ça, c'est pendiente, está pendiente. Mais il faut le faire d'une façon que ça ne mette pas en danger ni les compañeros, compañeras, ni nous autres. Donc voilà. Et après, ils valorisent beaucoup le fait que cette expérience voyage, aussi pour eux déjà comme mémoire collective, c'est quand même été 8 ans. Nous, on a tourné 5 ans, mais c'est une séquence qui a duré plus de 8 ans. Depuis le moment où ils expulsent la mairie et la police et les partis, donc fin 2015, et le moment où ça se casse en 2024, il y a eu presque 9 ans d'un processus, donc c'est pas rien, c'est pas 6 mois, quoi. Donc du coup, c'est une vraie mémoire aussi collective, vivante, que le film contribue à préserver et surtout à diffuser. Donc ça, depuis le début, c'est étonnant, mais ils valorisent beaucoup aussi le fait que cette expérience puisse voyager, être partagée. Voilà, plus que voir, oui, il y a toujours une curiosité de voir, mais il y a vraiment cette valorisation du film comme une façon pour une expérience de voyager, que d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres communautés puissent la voir et en tirer des choses peut-être qui peuvent leur servir. Je me suis permis de faire une réponse un peu plus longue, parce que je vois qu'il y a une traduction simultanée. Au fond, heureusement, merci, parce que sinon ça serait un peu compliqué. Voilà.
Oui, bonsoir. Bon, j'ai bien compris que tout le monde dans la ville savait que vous faisiez ce film. Dans les moments un peu publics et tout ça, j'ai bien compris que vous étiez là et tout le monde savait que vous étiez là. Mais est-ce qu'il n'y avait pas des moments où il y avait des scènes très, très, je ne sais pas comment l'expliquer, plus privées et je me demande à quel distance où vous mettiez la caméra à ce moment-là. Est-ce qu'ils savent que vous êtes là ou...
Ah bah oui, ils savent toujours.
Tout le temps. Ils savent
toujours. Il n'y a pas de caméra cachée, oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, nous, bon, on est quand même venus pendant 5 ans. Moi, j'avais fait un film avant aussi là-bas. Donc, je suis arrivé en 2013 la première fois. En fait, j'ai connu cet endroit parce qu'ils m'ont invité à présenter mon film précédent, un documentaire qui s'appelait Vive Américo, qui avait gagné le prix du public, d'ailleurs, à l'époque, dans ce festival. Il y a 15 ans, c'était sur l'autre campagne zapatiste, et on parcourait des résistances, des luttes contre des méga projets, des petites communautés qui luttaient comme ça. Et l'idée de cette marche, enfin de cette caravane, c'était de donner une visibilité à cet autre Mexique d'en bas, des personnes qui souvent semblent petites, isolées, mais en faisant réseau, voilà, puissent résister. Donc c'est pour ça qu'ils m'avaient invité la première fois à présenter ça. Après, ils m'ont demandé de faire ce film pour les aider dans leur cas de sensibilisation par rapport à la lutte juridique qu'ils avaient contre la Suprême Cour de Justice. Et après, moi, j'ai continué à faire des reportages. J'étais invité, en fait, la première année où ils fêtaient un an d'avoir expulsé la mairie, les partis. Ils ont fait une grande fête sur la place de la ville, très festive, enfin, très avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Et parce qu'ils étaient contents d'avoir réussi à résister un an, parce qu'en fait, ils pensaient que la répression allait leur tomber dessus et qu'ils n'allaient pas résister, ou parce qu'il y a tout plein d'antécédents d'une histoire de répression de la part de l'État du Chiapas, notamment. Et donc, en voyant cette énergie, j'ai fait un reportage solidaire à l'époque, et je suis revenu avec l'idée, mais je vais leur proposer de filmer ça, mais sur un temps long, en fait, pas un mode reportage, vraiment d'avoir le temps, voilà, de filmer un peu un processus collectif. Et donc, la plupart des scènes, donc la dynamique, c'est le cinéma direct, c'est-à-dire, il y a des situations qui se passent, et nous, on essaye de s'adapter au rythme des situations. On ne demande pas aux gens de faire des choses. De temps en temps, ça peut arriver, oui, c'est des exceptions. Par exemple, c'est vrai que à la fin, c'est peut-être un moment plus privé, c'est celui dont vous parlez, l'intimité. Oui, mais là, ils savent non seulement qu'on est là, et là, c'est vrai que c'est un peu plus, en fait, ce qui se passe, c'est que José Angel, il a eu le poste, c'est des équipes qui durent 3 ans en tant que autoridades del ejido, enfin, les autorités, Et lui, il avait le poste de maximum, de responsabilité maximum, commissariat d'Ojilal. Et donc, et là-bas, c'est pas les gens qui se présentent à la charge, c'est pas comme ici, on a des candidats que, voilà, là, en fait, la communauté nomme des personnes qui souvent ne veulent pas du tout être nommées, et ça leur tombe dessus, bon, parce que les personnes, surtout dans des endroits plus petits, ben, ils se connaissent, ils disent telle personne, on sait qu'il est fiable, on lui fait confiance, et donc lui, c'est quelqu'un de droit, qui est quelqu'un qui est très engagé dans ce qu'il fait, mais il a eu plein de choses à apprendre, il en parle un peu, on le voit, il bataille pour faire les papiers administratifs, enfin, à tous les niveaux, pour que les gens le respectent aussi comme leader, enfin, c'est très compliqué, et il en parle avec sa femme, et c'est vrai que là, ce jour-là, moi j'ai choisi quand même un peu en me disant, c'est le lendemain où il avait remis sa charge, donc il y avait l'autre équipe qui rentrait en place, donc c'est un moment symbolique dans la communauté où il y a une équipe qui a fini son mandat et elle remet le cargo, donc avec la dimension du poids aussi, mais c'est un honneur aussi d'être élu, évidemment. Et du coup, ben, c'était un dimanche en fin de journée dans le hamac, et c'est vrai que là, l'idée c'était aussi de voir depuis l'intimité un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, ce genre d'expérience aussi. Parce que dans le film, l'idée, c'est de conjuguer vraiment tous les niveaux de conversation, les conversations plus intimes, et puis aussi les assemblées, voilà. Donc, moi, ça me semblait aussi une façon... Et là, c'est vrai que c'est moi qui lui ai demandé, est-ce qu'on peut venir te voir le dimanche, le lendemain. Et en fait, ça a duré 2-3 heures, ce moment, c'est pas... Moi, au début, on cherchait à avoir une... C'est toujours un problème, la distance, de ne pas être trop près, pas être trop loin. Et bon, ça, c'est toujours un truc qu'il faut vraiment... On essaye de faire attention à ça. Et après, c'était... Vraiment, il parlait de choses qu'il voulait parler. Et après, moi, c'est vrai que je rentre un peu dans la conversation. Parfois, ce thème de la peur, effectivement, de vaincre la peur, qui est présent à d'autres moments du film, du documentaire. Il y a quelqu'un qui en parle. Comment vaincre la peur? Parce que c'est compliqué, c'est un défi que tout le monde a, parce qu'il y a beaucoup de dangers aussi, donc c'est un peu la métaphore du karaoké, quand il y a cette femme qui chante aussi, c'est vaincre sa peur, je sais pas chanter, mais allez, je vais chanter, non? Voilà. Et ben, je lui ai rappelé un peu ce moment-là, je lui ai dit, tu te rappelles la fête, le karaoké, tout ça, et après on lance un thème, et après on se met, voilà, en retrait, et après la conversation, mais c'est un petit moment, ça dure 2 minutes, et on était là 2-3 heures, Mais voilà, après, c'est ça le documentaire. Enfin, pour moi, c'est vraiment chercher des moments un peu magiques où il y a ce genre d'échange qui nous transmettent énormément, quoi. Mais après, il n'y a pas qu'une façon d'y arriver, il y a plein de... Et nous, on était plus dans le cinéma direct, donc c'était vraiment plutôt essayer d'être là, de s'adapter au rythme des situations. Mais il y a des choses qui sont un peu provoquées. Mais c'est pas non plus qu'on dit, voilà, toi, tu vas dire ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, on essaye de créer un... C'est Philibert, je crois, Nicolas Philibert qui disait une fois, le documentaire, c'est créer un cadre, pas seulement un cadre photographique, mais un cadre, quelque chose qui permet de créer des conditions pour qu'il se passe quelque chose, certaines choses. Quoi. Mais après, on peut attendre, il se passe rien, d'autres fois, il se passe des choses. Voilà.
Je voulais juste savoir exactement dans quelle région se trouve Tila. Parce que vous dites que c'est à 5 heures de
Saint-Cristobal,
et par rapport à Tuxtla ou à, je sais pas,
Oui, c'est à 5 heures, c'est au nord du Chiapas, c'est pas loin de Palenque, pour ceux qui connaissent. Okay. C'est pas loin du Tabasco. D'ailleurs, il y a un moment du film où on voit, il y a des pèlerins qui viennent, parce qu'il y a un Christ noir, c'est pas le sujet du film, hein, mais qui était au Tabasco d'ailleurs avant, qui s'est réfugié au Chiapas, à Tila. Parce qu'il a vraiment été persécuté par un gouverneur protestant, parce qu'on a compris. Donc du coup, il est venu se réfugier là. Et donc, il y a des pèlerins du Tabasco et d'autres régions du Mexique qui viennent une fois par an, notamment à Corpus Christi, à le visiter. Et du coup, parce que le Tabasco, c'est vraiment à côté. Voilà. Et donc, de Saint-Cristobal, effectivement, c'est à 5 heures de route. Oui, c'est les Chol. Donc, parce qu'au Chiapas, en fait, et au Guatemala, jusqu'à Honduras, il y a plein de peuples d'origine maya, donc, qui ont la même racine. Et là, c'est un de ces peuples-là, les Chol. Donc, voilà.
Bonsoir. Et je voulais vous demander, par rapport avec les mouvements zapatistes, les villages zapatistes, quelle est la relation, ou qu'est-ce qui s'est passé avec eux, parce que, bon, faut savoir.
Oui,
Et aussi, s'il n'y a pas d'autres communautés comme ces tejidos, qui fassent la même chose.
Oui, il y en a. Bon, déjà, c'est vrai que quand on parle de communautés zapatistes au sens strict, donc ça serait celles qui font partie de. Qui sont bases d'appoyo de l'Ejército Zapatista de Libération Nationale. C'est la base de soutien de l'armée zapatiste de Libération. Donc ça veut dire qu'ils sont dans cette organisation. C'est ceux qu'on connaît le plus mondialement, parce qu'il y a eu cette projection médiatique. Après, il y a plein d'organisations au Chiapas, aussi paysannes, autochtones, etc. Et là, les zapatistes, ben, c'est un peu leurs voisins. C'est-à-dire qu'il y en a certains, d'ailleurs, qui ont eu dans leur famille des gens qui, à un moment, étaient zapatistes, enfin, au sens de base de soutien. Et d'ailleurs, quand on sort du mouvement zapatiste, c'est pas forcément qu'on devient anti-zapatiste. Il y a tout cas de figure. Parce que souvent, l'organisation zapatiste, c'est quand même très exigeant aussi. Ça veut dire avoir accès à des choses qui sont vraiment valorisées, comme les cliniques de santé autonome, l'accès à des soins organisés par les zapatistes ou des écoles. Bon. Mais en même temps, il y a plein de devoirs qui incombent aussi à celles et ceux qui font partie de l'organisation zapatiste. Donc il y a des cas où des gens admirent les zapatistes mais ne sont pas prêts à être zapatistes. Voilà. C'est un peu, résumé, un peu spartiate, parfois c'est dur. Il y a beaucoup de tâches collectives, etc. Mais c'est une source d'inspiration pour d'autres communautés aussi. Eux, ils ne préfèrent pas être zapatistes, c'est-à-dire qu'ils ne font pas leurs écoles, ils ne font pas leurs cliniques. Par contre, le processus d'autogouvernance, qu'on a vu d'organisation collective, de tâches comme ça, oui, c'est très zapatiste aussi dans le principe. Et du coup, en plus, plus précisément, eux, ils ont adhéré à l'autre campagne zapatiste, la 6e déclaration de la Forêt Lacandone. C'est une initiative que les zapatistes ont lancée en 2006. Justement, l'autre film dont je parlais, on avait documenté ça. Ça veut dire qu'à l'époque, les zapatistes lançaient une invitation à des organisations qui n'étaient pas forcément seulement paysannes, urbaines, aussi dans tout le Mexique, qui n'étaient pas forcément... Le message était, vous n'avez pas besoin d'être zapatiste aussi. On a des choses en commun, trouvons-les et articulons ensemble. Voilà. Une sorte de front commun aussi, parce que toutes ces petites résistances, quand elles sont isolées, ben, elles sont plus faibles. Alors que si on se met en relation, en réseau, voilà, c'est un peu le message à l'époque. Et eux, ils avaient adhéré à cette proposition zapatiste. Et par ailleurs, il y a une partie, pas tous, mais une grande partie, et c'était ceux notamment qui étaient aux commandes de l'Ejido quand on y était, qui font partie du Congreso Nacional Indígena. C'est une initiative qui a été créée à l'initiative des zapatistes en 1996, 2 ans après le soulèvement, et qui coordonne des représentants de peuples originaires du Mexique, de tout le pays, mais qui est indépendante des partis politiques. Une des conditions, on ne peut pas être dans un parti et faire partie de ce Congreso Nacional Indígena. Et donc, eux, ils ont aussi des membres, c'est-à-dire qu'ils vont à des réunions parfois où il y a les zapatistes, mais aussi des personnes de tout le pays qui luttent pour l'autonomie, les droits collectifs des peuples originaires du Mexique. C'est une longue lutte qui a passé par plein d'épisodes où les zapatistes sont très respectés encore, et ça, le mouvement a tenu et tient encore. C'est parce que quand ils ont négocié avec l'État, ils n'ont pas voulu négocier seulement pour leurs intérêts en tant que zapatistes. Ils ont dit non, on invite des représentants de tous les peuples originaires du Mexique, on s'assoit autour de la table et on fait une proposition de réforme constitutionnelle. C'est les fameux accords de Saint-Andrés en 1987, qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'ont pas été appliqués, même s'il y a eu des avancées, mais l'idée de droit collectif qui permette à des peuples de décider vraiment quels projets peuvent se faire ou quels projets ne se font pas, on n'en est pas encore là. Parce qu'il y a aussi des intérêts capitalistes, évidents. L'État, en général, essaye de favoriser des conditions pour que des entreprises multinationales puissent venir, que ce soit de l'extraction de minerais ou d'autres projets touristiques, etc. Donc ça rentre un peu en contradiction, de fait, avec ce que propose la politique de l'État. Donc voilà, il y a des liens à plein de niveaux. Et après, il y a d'autres expériences aussi à Ostula, au Michoacán, par exemple. C'est une communauté aussi qui a expulsé là, où le contexte du narco était encore plus violent et qui a perdu beaucoup d'hommes, de femmes dans cette lutte, mais qui a reconquis un peu d'autonomie sur son territoire, où là, le narco faisait ce qu'il voulait avec les complicités de l'État, etc. Donc il y a d'autres expériences comme ça, évidemment. Ça serait trop long de les décrire. Et puis après, il y a aussi, par exemple, il y a des régions du Mexique, ou à Oaxaca, par exemple, il y a beaucoup aussi de cette tradition des autorités, effectivement, traditionnelles aussi, qui ont un certain poids, qui coexistent avec les autorités. Et sur les us et coutumes, il y a aussi Bon, c'est, voilà, il y a plusieurs niveaux, c'est complexe, quoi, mais il y a une lutte en cours toujours de plein d'organisations pour arriver à plus d'autonomie, que ça soit davantage reconnu, surtout en termes de droits collectifs.
Merci, muchas gracias. Je ne sais pas par où commencer, ça fait un moment que ça tourne dans ma tête depuis le début du film. Je dis un film parce que c'est bien plus qu'un documentaire, à mon avis. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est un vrai poème que vous avez filmé. Hein. C'est de l'ethnologie. Vous faites comme le grand ethnologue Malinowski faisait, l'observation participante avec la bonne distance. Et voilà, je suis sous le coup d'émotion. Et c'est... Voilà, je me souviens du Chiapas en 94-96. Et puis moi, je me suis tournée plutôt vers le Michoacán maintenant. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup pour le film, c'est beaucoup apprécié. Je voulais poser une question, deux questions d'ailleurs. Donc la première, c'est dans le film, j'ai pas réussi à avoir une notion géographique, à dimensionner la commune, mais il mentionne plusieurs quartiers. Quelle est la taille, la dimension de la commune? Et la deuxième question, c'est vous avez mentionné le Cristo Negro, le réfugié et la présence des évangélistes. Dans le film, on ne voit pas du tout des évangélistes ou autres. On voit quelques rituels, mais pas d'autres. Est-ce qu'il y a une quelque sorte de présence des évangélistes ou autres expressions religieuses à part leur propre?
Ah, c'est pas les évangélistes, là, c'est plutôt catholique. Hein. Les évangélistes, c'est plutôt, en fait, c'est ceux qui pourchassaient ce genre de figure de Christ noir. Et comme il y a un moment au Tabasco, qui est l'État voisin, ils avaient un gouverneur protestant qui chassait plutôt ce genre de phénomène qui fait partie du syncrétisme catholique. C'est vrai que peut-être pour nous, ça semble quelque chose... Et c'est tout ce qu'il y a dans plein d'endroits du Mexique, c'est multi-identité. C'est ce mélange qui s'est fait entre des traditions préhispaniques, mayas notamment en l'occurrence, parce qu'on voit ça dans les prières, ils mélangent des références catholiques et des références à la terre, à la mer, etc. Donc c'est quelque chose qui est très présent tout le temps. Donc c'est plutôt catholique. Il y a aussi des évangélistes ou des courants protestants, mais ils sont plutôt minoritaires. Il y en a aussi. Et d'ailleurs, des personnes qui sont dans le mouvement qu'on voit, elles ne sont pas forcément toutes catholiques. Il y a de tout. Surtout que là, en fait, il y a ce phénomène que là, quand il y a des pèlerins qui viennent, ils sont tellement présents que finalement, ils deviennent plus nombreux que les habitants. C'est-à-dire que c'est vraiment une masse de personnes qui se concentrent à un moment, le Corpus Christi notamment. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est le double, enfin je sais pas en termes de chiffres, mais c'est plus de personnes que ceux qui y vivent. Quoi. Et après le territoire, alors vous avez dit commune, en fait, dans le découpage mexicain, donc c'est un état fédéral, donc il y a des états, il y a des communes, il y a une commune de Tila qui ne correspond pas à l'Ejido Tila. Nous on était dans l'Ejido Tila. Ejido, là je vous invite effectivement à encore une fois voir le site internet, on donne quelques explications. L'Ejido, c'est une notion qui est héritée de la révolution mexicaine, qui a été donc mise dans la Constitution 1917, suite aux luttes de Zapata et autres révolutionnaires mexicains, c'était l'idée de la propriété sociale de la terre. C'est-à-dire que c'est le fait, et encore aujourd'hui, les rideaux, c'est plus de 50% des terres au Mexique. C'est quand même assez exceptionnel, parce que ça veut dire que c'est un statut des terres qui n'est pas de la propriété privée. Donc on ne peut pas venir... C'est-à-dire c'était aussi pour essayer de révertir cette logique de grande concentration de propriétaires terriens qu'il y avait avant la révolution mexicaine, où il y avait des énormes quantités de terres qui appartenaient à des finqueros, notamment. Et là, ça permet justement d'essayer d'éviter cette reconcentration des terres aux mains d'un propriétaire ou de quelques-uns. Et donc, les rideaux, en fait, c'est pas... Donc du coup, là, c'est 5500 hectares, plus ou moins. Voilà. Mais la commune est plus grande, en fait. La commune de Tila, c'est plus grand. Les rideaux, c'est un peu plus petit. Donc ça implique le noyau urbain qu'on voit, où il y a la moitié de la population de les rideaux qui vit, à peu près 12 000, 13 000 personnes, et l'autre moitié vit dans des hameaux, villages, communautés. À un moment, on sort un peu, quand on voit qu'ils s'entraînent avec les taureaux, etc., on se balade un peu hors du noyau urbain. Et donc tout ce territoire, voilà, ça conforme les rideaux, et pour eux, c'est une notion super importante, et qui, en plus, ils ont encore une fois une bataille juridique impressionnante. On a essayé de retracer ça un peu dans la chronologie du site internet, où on voit qu'ils ont gagné un nombre de... Parce que quand ils ont été dotés de terres, après la Révolution mexicaine, en fait, la tradition, c'était que les présidents successifs donnaient attribuaient des terres à des groupes de personnes qui les sollicitaient. Et après, donc ça veut dire que c'est légal, quoi. C'est-à-dire que c'est un héritage qui se transmet de famille en famille, voilà, de génération en génération. Et c'est encore très vif, d'ailleurs, le souvenir de la Révolution mexicaine. Ils en parlent, c'est mon grand-père, mon arrière-grand-père qui ont transmis ces valeurs-là. Donc on sent cette connexion très très forte à cette histoire, d'autant plus qu'ils ont vu sur ces dernières années la tentative d'accaparement et de spoliation des terres, notamment avec l'État du Chiapas qui a spolié une partie des terres, qui en plus après ont été redécoupées, vendues en lots urbains, suite à de la corruption en fait. Et donc c'est par rapport à ça aussi qu'ils ont eu lutte. Et ça, c'est, cette partie-là, c'est plus l'objet de l'autre film que j'ai fait avant avec eux. Mais voilà, ouais, il y a toute cette bataille juridique sur des décennies qui est très très impressionnante. C'est pour ça que quand on a connaissance de ça, on n'est presque pas surpris en fait qu'à un moment il y ait cet acte qui peut sembler radical d'expulser les autorités, parce qu'il y a una cantidad de agravios increíbles, non ça, entonces à un moment il y a c'est là le passage à l'acte, non, l'acte más radical, pero hay todo un contexto ahí, muy, muy profond.
Une dernière. Dans le film, à plusieurs reprises, il y a cette méprise des politiques. Ils disent si le pays arrive, on va les chasser. Si le PRD arrive, on va les chasser. Et les politiques, on va les chasser. Et pourtant, ce qu'ils font, c'est purement politique. Est-ce que ce débat apparaît quelque part ou ils n'ont pas besoin de...
Oui, après, ça, ce sera un débat plutôt théorique. On sait que c'est différent déjà la politique et le politique. Hein, ce qu'il faut... Enfin, eux, il y a une crise des politiques, ou des politiciens plutôt, enfin de ces logiques de parti en fait, qui envoient des représentants avec des intérêts, des priorités qui sont différentes de personnes dont le premier souci, c'est déjà de pouvoir conserver leurs terres, de pouvoir continuer à vivre comme l'ont fait les générations antérieures. Et souvent, les partis viennent, fragmentent les territoires, il y a de la spéculation qui commence, donc les mêmes personnes qui sont là depuis des générations se retrouvent presque comme des étrangers chez eux. Donc ça, c'est la priorité. C'est pour ça qu'il dit à maman, no importa que sea tal partido, tal otro. Il dit, peu importe le parti, ce qu'on a vu, que c'est de la même logique, en fait. Tous ont la même logique. Et eux, ils disent, nous, ce qui nous importe, c'est de défendre la terre, le territoire sur lequel on est. Et en plus, qui est une propriété sociale de la terre, donc qui est collective. Donc ça, c'est la base. Après que, pour eux, je crois qu'il ne faut pas trop, comment dire, clavarse en el lenguaje. Moi, je pense que, moi, personnellement, je pense que c'est très politique ce qu'ils font. Mais c'est, encore une fois, le politique, c'est une chose, et la politique ou les politiciens, c'est autre chose. Donc on sait très bien qu'il y a plein de façons de faire de la politique, sans passer aussi par ce système de parti auquel on est habitué. Mais là, c'est une forme de démocratie radicale, directe, qu'ils expérimentent. C'est un laboratoire aussi, hein, c'est pas, ils n'ont pas le truc tout clé en main, résolu. Je crois qu'ils peuvent s'appuyer sur une tradition très ancienne, qui leur donne aussi une force, une patience, d'être dans des assemblées pendant 4-5 heures. Il y a beaucoup à apprendre, à mon avis, de ça aussi, de cette façon de résoudre des problèmes en collectif. Mais après, c'est, oui, ils sont dans une aventure. Ils sont, à un moment, ils le disent à la fin de l'assemblée, là, il dit on est monté sur un cheval tous ensemble, on va voir jusqu'où on va. Bon, voilà, il y a une dimension d'aventure collective, avec sa part d'incertitude, de difficultés, évidemment.
Bonsoir, j'avais une question au niveau de l'organisation, savoir s'il y a quand même des liens avec le commerce, etc., avec l'extérieur, ou si c'était trop dangereux, par exemple, même vis-à-vis de l'État, si l'État coupe, s'ils ont des aides, s'ils n'en ont pas, voilà.
Bah, la base, c'est un climat qui est très très amigable et amical, au sens où ils sont dans une zone qui est... entre climat tropical et quand même un peu en altitude. D'ailleurs, il y a du café. Il y a énormément de choses qui poussent très, très bien. Après, il faut aller bosser dans les champs. Ça pousse pas tout seul non plus. Mais ce que je veux dire, ils ont cette base-là de l'autoconsommation qui est très présente. C'est, d'ailleurs, on voit un peu... Bon, on n'a pas trop... Ça sera un autre film, mais... On avait tourné des choses, d'ailleurs, pour donner un peu cette dimension-là. Mais après, un film, il y a des choix à faire, etc. Mais après, sur le commerce, ben, on voit, il y a une feria. À un moment, il y a des gens qui viennent vendre tout un tas de choses. D'ailleurs, ils doivent gérer des conflits d'espace. Donc, en général, il n'y a pas... Non, c'est un endroit ouvert, d'ailleurs, très ouvert. Où, ben, on le voit, toutes les visites qu'il y a, à un moment, qui déboulent dans les rideaux. Donc, non, c'est pas le modèle d'une communauté qui vit en autarcie, coupée du commerce. Après, oui, il n'y a pas de gros centres commerciaux, bon, parce que c'est aussi... C'est pas très grand, comme... Enfin, c'est... C'est un bourg, une petite ville, etc. Mais il y a des commerces qui fonctionnent, oui, comme partout ailleurs. Et on peut venir et sortir. Après, ce qui surveillait les tours de garde la nuit, c'est parce qu'il y a toujours cette menace aussi de gens qui ont intérêt à détruire ce processus. Donc il faut qu'ils soient très pendientes, très attentifs au mouvement qu'il y a à ce niveau-là. C'est la sécurité, ça fait partie des tâches aussi où ils doivent s'organiser. Mais au niveau du commerce, non, il n'y a pas de... Mais après, il y a une grande partie d'autoconsommation aussi. Ils valorisent aussi beaucoup le fait de la terre qui leur donne tant aussi. On va la milpa, traditionnellement au Mexique, donc c'est pas un champ de maïs. Enfin, on traduit champ de maïs, mais c'est faux. C'est du maïs, des haricots, des courges dans le même endroit. C'est déjà en fait une diversité des cultures qu'on valorise maintenant beaucoup aujourd'hui et qui connaissent depuis des siècles au Mexique et pas seulement au Chiapas. Donc ça, ils continuent à le pratiquer, beaucoup.
J'avais une deuxième question. On ne voit pas beaucoup de femmes au niveau de l'organisation, etc. Est-ce que du coup, c'est quelque chose de plus masculin? Est-ce qu'elles sont quand même présentes? Et là, au niveau de l'organisation, elles n'y étaient pas? Comment ça se passe?
Ça tient. C'est vrai qu'en général, il y a plus les hommes, traditionnellement. Mais après, ça tient aussi au moment. Par exemple, là, si on avait fait le film en ce moment, le cargo, la charge de commissariat de Rijal, actuellement, c'est une femme qui l'a. Donc si on avait fait le film maintenant... je crois que naturellement aussi, parce qu'en étant commissariat d'Aurilal, on se retrouve au milieu de plein de situations à gérer. C'est pas un film construit sur des personnages. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on retrouve des personnes qui apparaissent parce qu'elles sont souvent plus engagées. Pas forcément d'ailleurs parce qu'ils ont un cargo, c'est des autorités. C'est le cas de José Angel, effectivement, le commissariat d'Aurilal. Mais par exemple, le jeune qui construit les taureaux, qui pour la première fois met quelqu'un en prison. Moi, je voulais aussi qu'on ait des personnes de différentes générations. Idéalement, je voulais le maximum de diversité, des femmes, des hommes, des ados, des... Bon. Après, le film, déjà, ça dure 2 heures, donc on fait tomber dans la critique, c'est un peu long, etc. Donc, à un moment, il y a un souci de concentration. Et après, il y a une femme, par exemple, qu'on voit, oui, qui fait partie des autorités dans l'assemblée de quartier, qui parle à un moment. Mais c'est vrai que... et après, il y a des choses... Nous, on a passé énormément de temps à filmer avec une famille. Et le personnage principal était une femme, donc. C'était fascinant, sa maison, parce qu'il y avait vraiment l'extérieur à l'intérieur de la maison. Les plantes, les courges, les animaux. Enfin, on avait filmé aussi dans les champs avec elle. Sa famille, c'était incroyable. Ça transmettait beaucoup de la relation à la terre, aussi au territoire. Mais à un moment... Même le film commençait à un moment, à un prémontage. C'était sa voix en off sur la nuit qui disait « Mon grand-père m'a raconté que quand ils ont lutté contre Zapata, c'était... » Voilà, que nous, on avait aussi à un moment, on allait devoir à nouveau lutter pour défendre cette terre. Et je me souviens, mon grand-père m'a fait me promettre que quand ça arriverait, ce moment, on serait prêt, on défendrait la terre aussi. Donc c'était un très beau début de film aussi, mais c'était un autre film finalement. C'est-à-dire le problème, parfois quand on monte un film, surtout pendant 5 ans avec 150 heures de rush, c'est qu'il faut réussir à avoir une unité, quelque chose d'organique, sinon ça part dans tous les sens, et on perd aussi le spectateur, on perd la cohérence, etc. Donc il faut renoncer, parfois c'est des choix durs. Bon, heureusement, on a fait un super DVD de tous les souvenirs avec sa famille, on lui a remis, il était très content, mais je veux dire, voilà, on a perdu des personnages, mais aussi le film n'était pas construit à la base sur des personnages. Mais c'était au moins d'essayer d'avoir, le personnage collectif, voilà, c'était la priorité.